Le débat africain. Alain Foucault.
Si l'Afrique veut être respectée des autres, elle doit pouvoir d'abord se nourrir. Elle doit pouvoir produire ce qu'elle mange et se passer de l'aide alimentaire mondiale offerte à grand renfort médiatique. Elle doit en finir avec ces sempiternelles et humiliantes images d'enfants au ventre proéminent, débordés par des nuées de mouches qui, sur les médias du monde, symbolisent très souvent l'image du continent miné par la famine. Les fermetures des frontières pour cause de Covid-19 sont venues nous montrer l'urgence que les pays ont à mettre sur pied une politique agricole plus efficiente, plus concrète pour répondre aux besoins de leur population. On a entendu beaucoup de promesses et de résolutions pendant cette période inédite de confinement. Mais maintenant, comment les matérialiser dans le domaine agricole? Comment exploiter l'extraordinaire potentiel des terres arables dont dispose le continent pour nourrir ses populations? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la transformation de l'agriculture en Afrique. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural du Sénégal. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Alain Foucault et bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Notre second invité est monsieur Joseph-Antoine Kasonga Moukouta, ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Alain Foucault et tous les auditeurs de la Radio Internationale.
Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'agriculture en Afrique, monsieur Mohamed Beavogui, directeur général de African Risk Capacity, ARC, créé en 2012. L'ARC est une institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes liées aux conditions météorologiques. Monsieur Mohamed Beavogui travaille depuis très longtemps sur les questions liées à la transformation de l'agriculture sur le continent. Bonjour monsieur Mohamed Beavogui.
Bonjour monsieur Foucault. Bonjour à mes co-panélistes et bonjour à vos auditeurs.
Notre quatrième invité est également un spécialiste de la question du financement de l'agriculture. Augustin Ndri est responsable de gestion et relations bancaires avec des entreprises du secteur agricole à la Société Générale de Côte d'Ivoire. Avec plus de 3 décennies d'expérience dans la gestion des relations bancaires avec des entreprises du secteur agricole et 4 ans dans une entreprise de négoce international de matières premières agricoles. Bonjour monsieur Augustin Ndri.
Bonjour monsieur Foucault, bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Je rappelle que vous êtes en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et voilà pour notre plateau. Si on doit retenir une chose de positive du confinement, c'est les questionnements que les fermetures des frontières ont suscités. Questionnements et résolutions, parmi lesquels ceux liés à l'approvisionnement en nourriture. Certains Africains se sont rendus compte, un peu plus que d'habitude, de la dépendance du continent. Et comme dans beaucoup de domaines, tout le monde envisage un monde nouveau, avec des décisions, des initiatives qui libèrent un peu plus l'Afrique. Alors, dans la série d'émissions après Covid-19 que nous nous proposons à partir de ce dimanche de réaliser, nous souhaitons parler concrètement de ce sujet qui fâche, mais qui sont nécessaires pour envisager plus positivement l'avenir. Mais avant d'entrer dans les propositions, dans les tentatives de solutions, monsieur le ministre Joseph-Antoine Kasonga Moukouta, vous qui êtes le ministre de l'Agriculture de la RDC, j'ai envie de comprendre comment un continent qui possède autant de terres arables, comment expliquer ce paradoxe insoutenable du continent qui possède 65% des terres arables de la planète avec une pluviométrie et des températures propices à l'agriculture, qu'elle ne puisse pas parvenir à se nourrir? Comment l'expliquer ce paradoxe?
Ah, merci Métianin, parce que votre question est très pertinente. Je prends le cas d'abord de mon pays, qui est un don venu de Dieu. Il y a 80 millions de terres arables, 80 millions d'êtres humains de marché qui est à cheval de l'équateur, donc qui a les pluies presque toute l'année à part la période de souvent sèche, mais qui est un pays où il y a la malnutrition et la faim.
Absolument. Existe. Qui reçoit même de l'aide alimentaire des autres, c'est quand même surprenant.
Mais pourquoi? Parce que nous avons connu depuis 60, et les gens ne le disent pas tout haut, nous n'avons jamais connu la stabilité de nos populations. Chaque fois, nous avons des guerres liées parfois à des choses qui ne sont pas les nôtres. Je montre un exemple, c'est pour ça que notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, dit qu'il faut la revanche des sols sur les sous-sols. Nous avons ces 80 millions de terres arables qui peuvent nous permettre de faire au minimum 18 cultures différentes et les produire toute l'année. Mais l'instabilité, les crises politiques liées aux minéraux, parce qu'il n'y a aucune fabrication d'armes dans ce pays. Mmh. Mais les armes entrent parce qu'il faut qu'on mette la main sur les jugements importants. Donc nous sommes, sans nier notre responsabilité, victime quelque part de la mondialisation.
Alors on va dire en un, l'instabilité que connaît la RDC depuis l'indépendance, puisque la crise a éclaté 5 jours seulement après la proclamation de l'indépendance. L'instabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi véritablement la responsabilité même des dirigeants? Y a-t-il une stratégie pour mettre fin à cette ineptie?
D'accord. Ce que je vous ai dit, je n'exclus pas notre responsabilité. Mmh. Nous en avons. Mais prenons les choses concrètement. L'agriculture dans le monde entier est subventionnée. L'agriculture est exonérée dans beaucoup d'éléments. Nous voyons d'abord l'Europe agricole, ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons des problèmes d'argent pour financer l'agriculture. Comme maintenant, quand je vous parle là, nous avons deux programmes que j'ai élaborés ici. Un plan pour la relance agricole de tous les pays, où nous pouvons encadrer plus de 28 millions de nos compatriotes, mais qui est évalué dans les 4 milliards 400 millions de dollars américains. Parce que nous sommes pour le COVID, nous avons élaboré immédiatement un programme de COVID pour nous prémunir contre ce qui va arriver, qui est évalué à 46 millions de dollars américains pour emblaver 33 000 hectares pour le moment. Donc nous sommes là, nous recherchons l'argent, les minéraux, ça part, ça nous rapporte.
Justement,
pas
vous avez des minéraux, peut-être qu'on aurait pu penser à utiliser ces minéraux pour aider un peu l'agriculture. Je vais revenir vers vous dans un court instant, puisque vous avez évoqué le problème d'argent déjà pour lancer le secteur agricole et le problème de l'instabilité. Là, je me tourne vers une autre région qui n'a rien à voir avec la RDC, qui est le Sénégal. Comment expliquer qu'aujourd'hui, encore, on soit obligé d'attendre des autres pour se nourrir, alors qu'on parle d'indépendance, monsieur le ministre Baldé? Qu'est-ce qui explique cette inertie?
Je vous remercie, monsieur Alain Foucault. C'est vrai que la pandémie du Covid-19, plus que jamais, nous renseigne que l'autosuffisance est une nécessité.
Une urgence.
Une urgence pour les Africains. C'est vrai que le Sénégal, nous avons mené des politiques depuis l'indépendance, des politiques d'autosuffisance alimentaire, des politiques d'autosuffisance en riz. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, vous savez que le riz, c'est la principale denrée que l'on mange ici matin, midi et soir. Je dois avouer que avec l'avènement du président Macky Sall, nous avons eu le plan Sénégal émergent, qui est le cadre macroéconomique des politiques publiques au Sénégal, et sa déclinaison au niveau de l'agriculture, ça a été un programme appelé le PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et un des volets du PRACAS, c'était l'autosuffisance en riz, qui était prévue à l'horizon 2017. C'est vrai qu'en 2017, nous ne l'avons pas atteint numériquement parce que le Sénégal aurait dû produire 1,6 million de tonnes de riz padi, pour ce qui donnerait environ 1 million de tonnes de riz blanc, pour être autosuffisant. En réalité, le résultat, c'est que nous en sommes quand même à 1 million de tonnes de riz padi.
Vous savez, les stratégies, on va parler de stratégies dans la seconde partie, mais j'ai envie qu'on fasse un état des lieux, parce que chacun dit avoir une politique, on va voir l'efficacité de cette politique ensuite. Mais là, avant qu'il n'y ait ce plan Sénégal émergent, on sait bien qu'on attendait toujours et on attend toujours de l'aide de l'autre côté. Alors concrètement, qu'est-ce qui a fait que de 1960 à aujourd'hui, il n'y ait pas cette autosuffisance alimentaire? Est-ce le fait des politiques?
C'est évidemment, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, après les indépendances, nous, contrairement, par exemple au Congo, le Sénégal est un pays stable, un pays plat, qui a aussi des ressources. Nous avons le fleuve Sénégal qui a donné son nom à notre pays, nous avons le fleuve Casamance, une partie du fleuve Gambie et beaucoup de cours d'eau. Nous avons des ressources en eau vraiment suffisantes, nous avons le soleil. c'est vrai que notre pays n'est pas aussi pluvieux que la République démocratique du Congo, parce que nous sommes un pays sahélien, nous sommes au bout de l'Afrique de l'Ouest, mais quand même le Sénégal a des ressources et a tous les moyens d'avoir une politique agricole qui permet d'avoir sa souveraineté alimentaire. Mais on peut constater clairement que jusqu'à maintenant, les politiques qui ont été menées n'ont pas abouti.
N'ont pas été adaptées à la demande. Alors je me retourne vers M. Béavogui, vous qui avez sillonné le continent sur la question de l'agriculture justement. Comment expliquer ce paradoxe-là? Qu'on soit si riche en terres arables, avec un tel climat, et que l'agriculture africaine soit encore aussi mauvaise au point qu'on l'on attende l'aide alimentaire des autres régions du monde?
Monsieur Foucault, pour répondre à votre question, essayons d'examiner la question agricole à travers cinq domaines, très rapidement, très court. Pour faire de l'agriculture, il faut de la terre. Dans combien de pays, le problème foncier agricole est réglé?
Donc on va noter le problème
terre,
foncier.
Il faut qu'elle soit. Deuxième problème, la fertilité des sols. Les sols qui sont cultivés actuellement sont-ils entretenus correctement? Les pays africains utilisent environ 4 kilos d'engrais à l'hectare. Dans les pays les plus avancés en Asie, nous sommes au-delà de 100 kilos.
Il y a un sérieux gap.
Les technologies, les techniques agricoles. D'abord, avant les techniques agricoles, parlons des semences. Pour que la plante soit vigoureuse, il faut que la semence soit bonne. Avant même de lui donner l'eau et de l'engrais. La recherche en Afrique pour produire les semences adaptées à nos terres. Où sont-elles? Où est-elle cette recherche-là? Ensuite, les autres aspects de la technologie, la disponibilité des outils et des machines, les capacités de stockage. Ensuite, passons à la gestion. Troisième point, quelle est la qualité de la gestion de notre agriculture? On l'a laissée dans les mains de petits paysans qui pratiquent toujours les mêmes pratiques
ancestrales.
Voilà. Alors, arrivons à la commercialisation. La commercialisation, je veux parler d'abord aussi du financement. Qui respecte l'agriculture dans une banque?
On va parler des banques, justement dans un instant. Là, vous avez énuméré 8 questions qui sont essentielles pour développer cette agriculture. 8 questions auxquelles il va falloir qu'on apporte des réponses qui sont essentielles. Alors, j'ai envie de me tourner vers Monsieur Ndri. Vous faites le même constat, vous qui êtes dans cet environnement depuis longtemps déjà?
Disons que le constat, il est globalement et communément partagé que nous avons de grosses potentialités et qu'il est effectivement paradoxal que nous n'arrivions pas à mettre en valeur toutes les potentialités que nous avons. Je me souviens que au début d'un certain nombre de nos pays, il y a eu des initiatives qui ont été prises par la création d'un écosystème qui favorise la production agricole. Je veux parler pour ceux qui m'est plus proche de la Côte d'Ivoire, on a eu ici des programmes de développement de la riziculture qui ont connu de bons résultats. Il y a eu d'autres spéculations dans lesquelles il y a eu également des initiatives qui ont connu de bons résultats. Certainement que pour des objectifs peut-être budgétaires des États face à des contraintes de trésorerie et de la concurrence des autres productions venant des autres pays à moindre coût, ont fait que
Je voudrais que vous soyez très très concret, Monsieur Ndri. Quand vous dites « on s'est trouvé confronté à la concurrence des produits venant des autres pays », cela veut dire que ceux qui viennent d'ailleurs coûtent finalement moins cher que ce que l'on a sur le marché. Et on continue de les laisser venir. C'est bien ça, j'ai bien compris?
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Que ce qui vient d'ailleurs est moins cher que ce que nous produisons ici. Et donc, naturellement, si nous avons compris que si nous souhaitons promouvoir cette agriculture, une consommation de cette agriculture locale, il fallait donc subventionner le prix. Et en ce moment-là, on s'est retrouvé certainement confronté à des contraintes budgétaires. Et donc, tous les dispositifs ont certainement connu les torts que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui où on pose ce problème comme paradoxal.
C'est très paradoxal. Alors là, les choses sont assez, on va dire, vous avez fait un peu le point. Mais revient souvent la question des subventions. Qu'est-ce qui fait que l'on ne puisse pas subventionner ces produits, cette agriculture sur le continent, sachant que c'est vital, monsieur le ministre Baldé?
Oui, il faut relativiser. Donc, au Sénégal, quand même, on a une bonne politique de subvention. Les intrants sont subventionnés. Par exemple, les semences, le Sénégal, nous venons d'avoir cette année un budget de 60 milliards pour subventionner les semences d'arachide, de maïs, de riz. Nous venons de mettre en place 10 000 tonnes de semences certifiées au niveau du monde rural gratuitement. Donc, il y a une vraie politique de subvention au Sénégal. Maintenant, effectivement,
Monsieur Béavogui.
Monsieur Béavogui a posé beaucoup de questions sur lesquelles on devrait pouvoir revenir.
Mmh, absolument.
Il faut dire que quand on prend un pays comme le Sénégal, on a d'abord eu une politique agricole coloniale. Le colon, ce qu'il a développé, c'est l'arachide.
Absolument.
Il a développé l'arachide et en réalité, ce qu'il a fait aussi, c'est lui qui a introduit l'importation du riz au Sénégal. Donc le colon a eu cette politique de développer l'arachide, mais de ne pas trop s'occuper des cultures vivrières. On devait importer du riz pour manger et cultiver de l'arachide. Après les indépendances, on a essayé de rectifier. Après, il y a eu les problèmes de sécheresse dans les années 70. Il y a eu les problèmes d'ajustement structurel qui ont fait qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'argent probablement pour l'agriculture. Et tout ça, ça a perturbé le système agricole qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'en 2020, effectivement, nous n'avons pas la souveraineté alimentaire.
Alors, est-ce qu'on n'a pas un sérieux problème avec les cultures que l'on a sur place? La colonisation a mis l'accent sur les cultures de rente pour l'exportation, comme le café, le cacao, la palme, l'EVA, le coton, etc., aux dépens des productions vivrières. Or, on mange partout du manioc, du maïs, du riz. Pourquoi continue-t-on d'accorder plus d'intérêt à ces cultures alors que nous ne buvons pas le cacao et le café et nous ne mangeons pas le coton ou l'EVA? Là, je m'adresse au ministre de la RDC.
Merci Alain. C'est pour cela que dans notre plan national de relance agricole, nous avons mis les cultures vivrières en tête de tout. Bien que nous pouvons produire 18 cultures qui sont d'autres pérennes d'exportation, parce que comme on l'a dit, le colon s'était intéressé à des cultures qui pouvaient nous permettre de faire fonctionner ces industries. Nous avons 4 cultures en tête maintenant. Les riz, les maïs, les maniocs et les haricots. Le programme de COVID que nous avons lancé, qui est déjà en cours, prévoit d'emblaver 33 000 hectares de ces cultures-là pour nourrir notre population. Et dans notre plan de relance agricole qui est de 4 milliards, ce sont ces cultures qui sont en tête pour nous, nourrir la population. Pourquoi? Parce que nous avons vécu tout ça. Les palmiers et l'aïs qui fait le bonheur dans le monde a été développé ici chez nous. Et on continue à produire même des semences pour ça. Mais ça ne nous a pas apporté grand chose. Ça a développé ailleurs.
Mais lorsqu'on a fait ce constat, monsieur le ministre, pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on n'encourage pas la culture vivrière? Pourquoi on n'encourage pas à travailler sur ce que les gens mangent sur place?
C'est ça que je suis en train de vous dire.
Mais on a le sentiment que c'est timide et que 60 ans après, on est en train de se plaindre du fait que le colon ait importé ce produit-là. Mais on aurait pu changer les paradigmes depuis 60 ans, non?
Non, le problème, on l'a situé. Notre ami de l'Afrique du Sud a soulevé beaucoup de problèmes.
Absolument, on va en parler justement dans la seconde partie du débat africain. On va en parler de tous ces problèmes qu'il a évoqués, même si on n'aura pas le temps de tout développer. Des problèmes fonciers, de la fertilité des sols, des techniques agricoles, de la qualité des semences, des disponibilités même des terres, de la gestion de l'agriculture et la commercialisation. Justement, je propose que nous en parlions dans la seconde partie du débat africain, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. On ira au fond. Et on essaiera de trouver des solutions. Restez à l'écoute, on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie des débats africains.
Le débat africain. À Alain Foucault.
Comment peut-on posséder 65% des terres arables de la planète avec une pluviométrie et des températures propices à l'agriculture et dépenser plus de 45 milliards de dollars en importation de denrées alimentaires? Comment comprendre qu'avec un tel potentiel agricole, le continent continue d'importer l'essentiel du riz, l'une des principales denrées consommées en Afrique? Avec la pandémie du Covid-19 qui a prouvé que les frontières peuvent se fermer, bloquant tout approvisionnement extérieur, l'urgence est désormais connue. Élaborer une stratégie pour permettre à l'Afrique de s'autosuffire au moins sur le plan de l'alimentation. Comment transformer l'agriculture africaine pour répondre à cette exigence? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'agriculture en Afrique, avec plusieurs invités en direct dans quelques capitales subsahariennes. D'abord de Dakar, au Sénégal, le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural du Sénégal. Ensuite, notre second invité est Monsieur Joseph-Antoine Kasonga-Moukouta, ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo. Notre troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'agriculture en Afrique est M. Mohamed Beavogui, directeur général de African Risk Capacity. L'ARC, créée en 2012, est une institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes liées aux conditions météorologiques. M. Mohamed Beavogui travaille depuis très longtemps sur les questions liées à la transformation de l'agriculture sur le continent. Notre quatrième invité est également un spécialiste de la question du financement de l'agriculture. Augustin Dri est responsable de gestion et relations bancaires avec des entreprises du secteur agricole à la Société Générale de Côte d'Ivoire. Avec plus de 3 décennies d'expérience dans la gestion des relations bancaires avec des entreprises du secteur agricole et 4 ans dans une entreprise de négoce international de matières premières. Voilà pour notre plateau. Alors dans la première partie, nous avons un peu fait l'état des lieux. Il est triste. Mais comment changer les paradigmes? Je souhaite que nous nous concentrions sur les solutions. Si on veut s'en sortir, produire local, eh bien, par quoi commence-t-on, M. Beavogui? Que fait-on dans l'immédiat pour changer les choses?
M. Foucault, malheureusement, l'agriculture est très complexe. Et les questions que j'ai soulevées tout à l'heure, une solution à un problème ne permet pas de régler l'ensemble des problèmes de l'agriculture. Il faut régler tous les problèmes.
Et oui, mais il faut bien commencer par quelque part.
Monsieur Foucault, soyons directs, c'est une question de volonté politique. Imaginez-vous, par exemple, nos capitales sont les grandes consommatrices de nos produits agricoles. Le coût de transport d'une tonne qui part de 100 km dans un village qui est à 5 km de la capitale jusque dans la capitale est plus élevé sur ce trajet que le coût du transport d'une tonne de riz de la Thaïlande à nos capitales africaines.
Mais alors, ça vient de quoi? Comment faire alors pour que ce riz qui vient d'à côté, qui vient de 100 km, coûte moins cher que celui de Thaïlande?
Il faut investir dans les infrastructures en partant de nos villages. Il faut comprendre nos économies et investir dans nos infrastructures en conséquence.
Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà choisir ce qu'on veut cultiver, ce qu'on veut développer? Est-ce que ça ne commence pas par là?
Non, absolument, Monsieur Foucault, l'agriculture est un business, comme tout autre business. Le jour que nous le comprendrons, nous pourrons aller beaucoup plus vite pour résoudre nos problèmes agricoles. Si nous choisirons comme un business, nous devons commencer par la demande, par le marché.
Là, quand vous entendez ça, M. Baldé, vous qui êtes ministre, l'agriculture est un business et il faut le voir comme tel. Et ce qui fait défaut, selon M. Beavogui, c'est la volonté politique. Qu'avez-vous envie de dire?
À ce titre, je dois dire qu'au Sénégal, depuis 2012, c'est pas la volonté politique qui manque. Le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, a affiché clairement les ambitions. Le Sénégal doit être autosuffisant en riz. C'est une denrée qui est précise. On doit être autosuffisant en riz. Autosuffisant en riz, pour cela, nous avons la vallée du fleuve Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les aménagements. Nous avons le riz pluvial en Casamance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la quantité de semences certifiées, mais surtout, il faut mécaniser l'agriculture sénégalaise. Le président de la République a eu des programmes de mécanisation qui ont permis au Sénégal de se bénéficier de 2000 tracteurs entre 2012 et 2019.
Mais l'objectif, c'était pour 2017. Nous sommes en 2020 et on n'est pas encore autosuffisant en riz au Sénégal.
Oui, mais personne ne doute quand même, ne peut contester les progrès qui ont été faits.
La volonté politique.
La production, la volonté politique, elle est claire, elle est matérialisée aussi bien dans nos budgets, dans la mobilisation des ressources budgétaires, mais aussi la mobilisation des Sénégalais eux-mêmes. Le président Macky Sall, il a fait le tour du Sénégal pour inciter les gens à vraiment s'approprier le programme national d'autosuffisance en riz du Sénégal. Comme je vous ai dit, il y a eu la mécanisation, il y a eu l'augmentation des semences et la production a suivi. Nous sommes passés de 300 000 tonnes de riz padi en 2012 à 1 200 000 en 2018. Donc il y a eu un progrès extraordinaire, nous avons multiplié notre production par 5 et nous pensons que évidemment, dans le cadre de ce contexte de pandémie, qu'il faut encore aller plus loin.
Il faut aller plus loin, comme vous le dites. Et on a le sentiment que la plupart des États ne sont pas parvenus à convaincre les populations de s'intéresser à l'agriculture. Là, je m'adresse à M. Ndri. Est-ce qu'il n'y a pas ainsi une, on va dire, un rejet de cette activité parce qu'on pense que ce n'est pas si valorisant que cela?
Non, non, je ne pense pas qu'il y ait un rejet. Le temps ne nous permet pas de développer toutes les idées. C'est qu'aujourd'hui, l'un des panélistes l'a dit, cette agriculture est un business. Et donc, pour moi, il faut organiser cette agriculture-là pour que tous les acteurs qui en tirent profit. En ce qui nous concerne, nous notons dans les différentes approches de financement que nous avons que les risques sont particulièrement nombreux dans l'agriculture et c'est la raison pour laquelle les banques sont toujours taxées de ne pas vouloir s'y intéresser.
Ah oui, non, mais les banques sont perçues comme les adversaires même de cette agriculture, puisque les banques demandent des choses aux agriculteurs qu'ils ne peuvent pas fournir. On le sait que la plupart des agriculteurs qui nourrissent les centres urbains sont des petits entrepreneurs.
Tout à fait. Si vous permettez, je voudrais effectivement lever une équivoque. Premièrement, les banques financent l'agriculture, sauf que là, il s'agit, je comprends de ce dont on parle, il s'agit de financement direct et non pas le financement tel que nous le pratiquons aujourd'hui, c'est que les banques aujourd'hui, compte tenu des risques dont je parlais tout à l'heure, les banques se positionnent au niveau de la commercialisation et non pas au niveau de la production. Et c'est là où le débat s'amène, c'est-à-dire on voudrait que les flux financiers aillent se positionner en amont à la production plutôt que sur les segments de commercialisation qui offrent aux banques les profils de risque. Ça permet de mitiger les risques pour assurer un bon taux de remboursement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les crédits que les banques accordent à aux distributeurs, aux exportateurs, il faut bien en amont, ceux-ci, ils redistribuent donc ces financements sous leur responsabilité pour assurer la production.
Mais Jean, j'ai envie de vous interrompre en disant, ce dont vous parlez, vous venez vous-même de dire aux exportateurs. Mais là, on parle de l'agriculture locale. Et on sait très bien que ce n'est pas ce qui vous intéresse beaucoup. Les banques s'intéressent surtout à ceux qui exportent, c'est-à-dire café, cacao et autres denrées vendues à l'extérieur, en tout cas, autres matières premières vendues à l'extérieur. Mais est-ce que la banque ne devrait pas repenser l'agriculture du continent? Est-ce qu'on ne devrait pas voir comment on finance les petits agriculteurs qui s'occupent de produire du riz, du maïs, tout simplement ce qu'on mange, du manioc? Là, je m'adresse au ministre de RDC. Est-ce que, monsieur le ministre, ce n'est pas un domaine dans lequel on doit accorder un certain intérêt, faire que ces gens-là comprennent que c'est du business et leur accorder aussi le moyen d'acheter leurs semences?
Oui, monsieur Alain, nous sommes là-dessus. Voilà comment nous, on conçoit les problèmes pour le moment. La volonté politique est là parce que notre chef de l'État a placé la vision que je viens de vous dire, la revanche des sols sur les sous-sols. Des années, nous nous étions occupés des minerais. Maintenant, nous voulons nous occuper de l'agriculture. Et nous avons mis en place des programmes, des mécanisations qui nous permettent d'encadrer autour de chaque site au moins 50 km nos paysans. Notre problème de base, c'était un paysan fait, par exemple, ici chez nous, un hectare de maïs. Lui-même, il produit 800 kilos ou 1200 kilos. Nous avons compris que la base même se trouve dans nos sols, qui sont les sols tropicaux, qui se trouvent à l'équateur, qui n'ont fait 15 cm de couche humide. Il fallait améliorer ce sol et améliorer les semences. Parce que c'est avec les expériences que nous avons déjà entamées, qui sont en cours et qui produisent, ces paysans, quand ils soient les hybrides de maïs, il fait 4 tonnes à l'hectare, alors qu'il faisait moins d'une tonne. Vous comprenez que après 3 mois, son revenu remonte sensiblement. Mmh. Alors, ça, nous sommes, notre gouvernement s'est mis en place pour faire cela. Et cette volonté y est. Bien sûr qu'il y a des difficultés pour les importations. C'est toujours des grands centres urbains qui posent des problèmes. Dans les milieux ruraux, il y a la production. Il faut reconnaître que les infrastructures qu'on a parlé ici...
Absolument, parce que M. Biavogui mettait l'accent sur les infrastructures. Or, dans le cas du Congo, c'est là où le bât blesse véritablement, non?
Nous reconnaissons qu'il faut... Mais nous les finançons comment? Là, autant vous voulez vous mettre à préparer les moyens de financement, il y a une guerre par là, une guerre par ici. Je n'ai pas voulu parler de ces histoires-là dans ce que nous disons maintenant. Parce que ça, ça nous a déstabilisés. Je prends même les minerais qui sont là. Dès que nous avons fait un code minier, le cobalt coûtait 68 000 dollars la tonne métrique. Mais ceux qui ont compris que le code exigeait que nous ayons moins une part pour nous financer, ont baissé ces coûts-là de 68 000 dollars la tonne métrique à 34 000. Vous comprenez que c'est... Il y a un petit jeu de malin là-dedans aussi, sans oublier notre responsabilité dans la gestion. Ça, je reconnais que nous n'avions pas géré comme il fallait depuis tout le temps. Mais il y a une volonté, maintenant, nous allons relever l'agriculture en nous occupant de nos plus petits, parce que nous sommes à 80%. C'est un pays paysan, des paysans.
Oui, 80% de paysans qui n'ont pas de moyens de financement. Tout à l'heure, M. Biavogui évoquait le problème foncier. Le problème foncier est l'une des difficultés que rencontrent la plupart de ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Comment gérer cette question foncière, M. Biavogui, d'après vous?
Monsieur Foucault, vous savez, si vous regardez tous les pays d'Afrique, particulièrement les pays d'Afrique au sud du Sahara, font de l'agriculture une priorité dans les textes officiels. C'est vrai, dans les discours politiques, l'agriculture est prioritaire. Mais combien de pays respectent les 10% du budget national affecté à l'agriculture, tel que décidé par le NEPAD en Afrique? Donc, si les moyens financiers ne sont pas là, si la décision, les actes ne suivent pas la prononciation des politiques, c'est difficile. Donc, il faut vraiment une volonté politique dans le discours, mais aussi dans l'action. C'est extrêmement important. Commençons par mettre 10% du budget national
dans l'agriculture.
En direction de l'agriculture. Mmh. Première des choses. Donc, à partir de là, on pourra financer des programmes réels du foncier. Parce que si un agriculteur peut aller dans une banque avec un titre foncier clair et net, en disant, voilà mon terrain, il vaut 1 million de francs CFA, j'ai besoin d'un crédit de 100 000 francs CFA, je donne mon terrain comme caution, ça c'est une caution valable. Mmh. On peut commencer à régler le problème du financement.
Mais qu'est-ce qui rend la résolution du foncier si difficile finalement? C'est quoi?
C'est faire correctement le travail, c'est faire les enquêtes nécessaires, mettre en place les systèmes qui existent comme dans tous les autres pays qui le font déjà, mmh, et donner des titres à chaque propriétaire. C'est vrai qu'on a une histoire, c'est vrai qu'on a une tradition, ce n'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'après 60 années d'indépendance, si on avait commencé très tôt et on l'avait fait, on serait très loin.
On aurait des solutions. On aurait des solutions.
Voilà, aujourd'hui, les technologies le permettent. Vous savez, avec votre téléphone, vous pouvez déterminer les coordonnées de votre champ. Vous n'avez besoin de personne. Donc aujourd'hui, les technologies du digital permettent de faire ce travail-là assez vite et beaucoup plus qu'avant.
Là encore, il s'agit de volonté politique. Aujourd'hui, l'Afrique dépense environ 63 milliards de dollars par an pour la nourriture, les boissons et le tabac. Est-ce qu'une partie de cette somme ne pourrait pas être utilisée progressivement pour développer des filières africaines de chacun des produits que l'on importe? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un déficit réel de coopération régionale pour gérer cette question? Parce que lorsque l'on voit les sommes, on pourrait gérer ces questions assez facilement. Là, je m'adresse au professeur Baldé.
Je voulais d'abord faire quelques remarques par rapport aux observations de mon prédécesseur. Mmh. Il faut dire qu'au Sénégal, quand même, quand on prend l'agriculture au sens large, nous mobilisons au moins 12% de notre budget pour le secteur primaire. Donc nous respectons bien ces conditions qu'il a évoquées plus tôt. Et même dans le cadre du financement des petits producteurs, il faut reconnaître que la Banque agricole du Sénégal finance quand même toutes les chaînes de valeur, de la production à la commercialisation. J'étais, avant d'être ministre, le directeur général d'une société de développement agricole qui s'occupait essentiellement de riz. Et au sud du Sénégal, on s'est rendu compte que quand même les producteurs, non seulement ils ont accès au crédit, mais qu'ils arrivent à faire du business, comme disait Ndri. Des producteurs ont acheté des voitures que moi je ne peux pas acheter. Et des producteurs ont construit de belles maisons, etc. Donc, c'est une question de structuration. Je pense qu'actuellement, en tout cas, pour ce qui concerne le riz au Sénégal, c'est une chaîne de valeur de plus en plus rentable. Et en plus de la banque agricole, le président de la République a mis en place des outils comme le fonds de garantie qui s'appelle le fonds GIP pour aider les petits producteurs d'avoir des garanties qui leur permettent d'avoir des prêts qui ont des taux d'intérêt pas très élevés. Donc il y a des efforts, il y a une organisation.
Mais il faudrait peut-être que ces efforts soient mutualisés et que l'ensemble du continent se mette d'accord pour accompagner l'agriculture, puisqu'il faut qu'on nourrisse les gens. Et l'autre aspect qu'évoquait M. Béavogui, c'est la question même de l'intéressement des jeunes à l'agriculture. On a le sentiment que c'est resté l'activité des vieux et des ruraux. Comment faire pour intéresser les jeunes à l'agriculture? Là, j'ai envie de poser la question à M. Ndri.
Moi, je pense que pour intéresser les jeunes à l'agriculture, d'abord, il faut se dire qu'il ne va pas aller à l'agriculture en utilisant les outils que nous, nos parents, que tes parents ont utilisés.
Il faut moderniser.
Donc le moderniser, ça suppose qu'il doit investir, et s'il investit, il faut bien qu'il récupère son investissement, et donc que l'agriculture soit rentable, et là alors, on va se confronter vers les caractéristiques aujourd'hui de la culture vivrière, qui est l'émiettement des parcelles. Donc, il faut aller vers des organisations professionnelles qui possèdera donc des surfaces suffisamment grandes pour justifier un investissement, et en ce moment-là, le potentiel dégagé peut justement pour offrir aux financiers extérieurs un intérêt pour consolider donc son investissement.
Monsieur Béavogui, cette modernisation, vous la voyez de la même façon, rapidement?
Oui, absolument. Et puis, monsieur Foucault, en fait, les nouvelles générations ont commencé à s'investir dans l'agriculture et l'agriculture moderne. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, monsieur le ministre vient de parler, j'ai été provocateur, mais il y a aussi de très bons exemples en Afrique qui commencent. Et quand vous parlez de mutualiser, c'est pour ça que c'est important de mutualiser, pour partager les expériences. Au Sénégal, aujourd'hui, vous avez toute une chaîne de valeur, par exemple, sur les fruits et légumes, particulièrement sur les légumes. Tous les supermarchés qui sont florissants actuellement au Sénégal reçoivent leurs produits de petits agriculteurs. Et ces petits agriculteurs-là ne sont pas seulement des simples agriculteurs. Le plus grand nombre est formé par des agriculteurs intellectuels. Donc l'agriculture se modernise à tous les niveaux et donc les banques, les financements peuvent intervenir. C'est le cas au Rwanda. Au Rwanda aussi, vous avez vu le niveau de l'introduction des technologies nouvelles, y compris les drones, dans l'agriculture. Donc, elle se modernise, les jeunes s'intéressent. Dans mon pays, moi je suis guinéen, et dans mon pays même, on voit les jeunes agriculteurs aujourd'hui, des gens qui ont des MBA, des masters, qui commencent à s'intéresser
à l'agriculture. On va revenir sur la question de l'agriculture, parce que le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. On va revenir très longuement la prochaine fois sur la question de l'agriculture, en prenant thème par thème, tels que le problème du foncier, la fertilité des sols, les techniques agricoles, la qualité même des semences et la disponibilité des sols, la commercialisation. On reviendra sur la question. Là, on ouvrait un peu un débat et je sais qu'il va être long. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, mais pas de la discussion qui ne fait que commencer parce qu'il y a urgence. L'Afrique ne pourra être fière, libre et digne que lorsqu'elle pourra se nourrir, que lorsqu'elle aura arrêté de tendre la main, quelles qu'en soient les raisons. Elle doit pouvoir se passer des pseudo-aides qui la maintiennent dans la dépendance. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et la pseudo-solidarité internationale, on a pu mesurer ses limites avec la pandémie du Covid-19, où chacun s'est d'abord et essentiellement occupé des siens. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne de cette expérience et invente l'avenir avec les nouveaux paradigmes, sans se limiter aux discours de bonne intention, mais en étant très, très concret. Au-delà du défi sanitaire, l'Afrique doit repenser sa sécurité alimentaire. Lorsque l'on observe d'ailleurs la flambée des denrées importées sur le marché ces derniers mois, on mesure l'urgence des changements. Merci Merci, monsieur, pour votre contribution à cette réflexion. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.